Bonjour à tous et à toutes, Didier Delatte sur IDFM. Culture, jeunesse, solidarité, citoyenneté, environnement, il s'en passe de belles dans notre département et dans notre rendez-vous compte, évidemment. Veuillez vous donner la peine d'entrer, monsieur. Un valet de pied, ma foi très courtois, a formulé cette invitation à notre intention. Tout en le suivant, nous avons traversé une suite magnifique de salons somptueux, chacun décoré dans une tonalité particulière. L'ensemble, tapis, meubles et fauteuils, se rattachent pour chaque pièce à une couleur dominante. Le bleu soutenu, le violine, le beige, le havane. Des lumières très douces se dissimulent derrière des verreries d'un goût exquis. Ce visiteur émerveillé, un journaliste français, découvre-t-il en 1883 un palais des Mille et Une Nuits ou le château de la Belle au Bois Dormant? Eh bien non, il visite simplement le dernier-né de la compagnie des wagons-lits, dont la décoration est une pure merveille. Aujourd'hui, puisque nous sommes en vacances, vacances scolaires tout du moins, dans la zone C, la nôtre, eh bien, culture, jeunesse, solidarité, citoyenneté, environnement, ouais, mais aussi rêves et voyages, et mythes également. Alors, si on additionne tous ces facteurs, on arrive sur le quai d'une gare parisienne à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, rediffusion d'un de nos premiers rendez-vous compte, c'était en octobre 2021. Il y a des trains réels et pourtant mythiques. Et s'il en est un qui a marqué l'histoire, c'est bien l'Orient Express. L'Orient Express, à bord duquel ce journaliste ébloui, a eu la chance d'effectuer le trajet inaugural officiel. L'Orient Express, qui reste le symbole de toute une époque depuis longtemps disparue, c'est son histoire vraie et pourtant hors du commun que je vais vous raconter aujourd'hui. Allez, on part pour un véritable voyage sur rail, un voyage dans le temps, à travers toute l'Europe jusqu'en Asie. Allez, en voiture, le voyage commence. Le mythe débute à Paris, gare de l'Est, en 1883. Le 5 juin, à 19h30, a lieu de la gare de Strasbourg, qui s'appelle maintenant la gare de l'Est, à Paris, le premier départ de l'Express d'Orient, déjà appelé aussi l'Orient Express, à destination de Constantinople, en Turquie. La vogue à l'orientalisme en France notamment, depuis la traduction des Mille et Une Nuits, au XVIIe siècle, depuis le bourgeois gentilhomme de Molière avec son monsieur Jourdain fait grand mamamouchi, depuis l'expédition d'Égypte de Bonaparte, les conquêtes coloniales, les harems des peintres Ingres et Delacroix, les voyages en Orient de Gérard de Nerval ou le Salammbô de Gustave Flaubert, eh bien en fait c'est l'Europe entière qui est attirée par l'Empire ottoman finissant. Selon certaines sources, les passagers de ce voyage inaugural étaient tous des hommes, à qui on avait recommandé, rendez-vous compte, de porter par précaution une arme à feu. L'inauguration officielle a lieu, 4 mois plus tard, le 4 octobre 1883. Une foule de journalistes français et étrangers, d'artistes et de personnalités politiques se pressent sur les quais pour assister au départ, auquel sont conviés 24 passagers, dont seulement 2 femmes, l'égalité n'est pas encore vraiment d'actualité. Autre discrimination sociale, celle-là, le prix des places. 700 francs or, la moitié du salaire annuel d'un ouvrier qualifié. Rendez-vous compte. L'Express d'Orient fait l'aller-retour Paris-Constantinople de 3094 km en moins de 2 semaines. Parti le 4 octobre 1883 à 19h30, à l'arrêt pendant 5 jours, il est de retour à Paris le 16 octobre à 6 heures. Le trajet de Paris à Constantinople n'a pris que 4 jours, à une vitesse moyenne de 50 km/h, là où la liaison maritime Marseille-Constantinople en nécessitait une quinzaine. Le trajet n'est pas encore direct. Le train traverse l'Europe de Paris à Bucarest en Roumanie, via Strasbourg, Munich en Allemagne, Vienne en Autriche, Budapest en Hongrie. N'ayant pas l'autorisation de traverser le Danube, les passagers doivent prendre un bac entre la Roumanie et la Bulgarie pour franchir le fleuve et la frontière. Un autre train les mène ensuite à destination d'un port bulgare sur la mer Noire, où ils embarquent à bord du navire à vapeur Espero, qui en une quinzaine d'heures les mène jusqu'à Constantinople par le Bosphore. Une véritable expédition. À partir de 1889, la ligne étant achevée jusqu'à Istanbul, le train devint direct. Il circule deux fois par semaine entre Paris et Constantinople, l'actuel Istanbul. Au luxe du train s'ajoutent des animations, concerts de musique tzigane, visite d'un château en Roumanie, et chacune des villes desservies par ce train était particulièrement appréciée par la luxueuse clientèle de l'Orient Express. Budapest, avec ses nombreux bains et son château royal, Vienne et son emblème, l'impératrice Sissi, ou encore Munich et sa cathédrale. Il faut dire que le voyage constitue une véritable révolution. Tout d'abord, le train est composé de voitures-lits et de voitures-restaurants du jamais vu. Et puis, il ne faut pas moins de 30 locomotives différentes pour tenir la distance jusqu'au bout de ce voyage inaugural. La vitesse est également impressionnante pour l'époque. La presse s'enthousiasme. Le 20 octobre, l'envoyé spécial du Figaro écrit « En 76 heures au lieu de 111 comme autrefois, nous avons accompli le trajet de Constantinople à Paris et cela sans la plus légère fatigue dans des conditions de confort absolues. » Ce succès est l'œuvre d'un visionnaire. Lors d'un séjour aux États-Unis en 1868, le jeune ingénieur belge George Nagel-Makers voyage à bord des trains Pullman et expérimente leur fameux sleeping car, des wagons-lits quoi. Certains trains américains, en avance technologiquement sur ceux du vieux continent, n'en demeurent pas moins très inconfortables. Alors, Nagel-Makers revient en Europe avec une idée. Créer des trains luxueux pour une clientèle aisée. Il dessine lui-même le train de ses rêves. Avec l'Orient Express, il réussit le pari d'allier longue distance, confort et raffinement. Il invente un nouveau système de suspension et de bogie, rendant le train si confortable qu'il peut rouler de jour comme de nuit. En 1883, il crée sa société, la Compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens. Et il adopte le célèbre monogramme aux deux lions héraldiques apposé sur les portes des voitures voyageurs. Le cinéma, la littérature, les affiches ou la photographie diffusent largement l'image de ce logo, assurant la renommée de ces trains légendaires qui parcourent l'Europe jusqu'en Asie et en Afrique. L'ambition de Nagel-Makers est de créer un réseau international de trains de luxe, évitant les changements aux frontières. Les passagers sont libérés des contraintes administratives, la compagnie des wagons-lits s'occupant de présenter les passeports à chaque passage de frontière. Nagel-Makers est un précurseur, visionnaire des voyages modernes. Il fait construire des palaces dans les pays où passe le train pour que ses clients puissent trouver la même qualité de service sur la route, sur les rails et à l'arrêt. À lui seul, il incarne l'art de vivre idéal. Enfin, pour ceux qui en ont les moyens, voyez-vous. Et dès 1894, la compagnie ouvre un hôtel de luxe à Constantinople, le Pera Palace, pour les passagers de l'Orient Express. Un véritable coup de génie. Prendre l'Orient Express, c'est, comment dire, entrer dans une pièce de théâtre. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, aurait pu écrire Baudelaire s'il avait voyagé à bord de l'Orient Express. Un train comporte une douzaine de voitures, dont le wagon-restaurant de 40 places et les wagons-lits, et transporte entre 150 et 200 passagers. Surnommé le roi des trains, le train des rois, très joli chiasme, l'Orient Express conjugue innovation et élégance. Ses cabines sont équipées avec ce qui se fait de plus moderne, chauffage central, eau chaude, éclairage au gaz. Côté luxe, l'intérieur est tapissé et les lits impeccablement dressés. Des peignoirs marqués du sceau de la compagnie attendent les voyageurs. On utilise les meilleurs matériaux, draps en soie, sanitaires en marbre, coupes en cristal, couverts en argent. 20 cabines se transforment en salons durant la journée. Aux alentours de 1920, la Compagnie internationale des wagons-lits fait appel au maître verrier René Lalique et au décorateur ensemblier René Prou pour l'aménagement de certaines voitures. Panneaux de verre, marqueterie, de bois précieux. L'Orient Express devient ainsi un terrain d'expression international de l'art déco. En 1926, afin d'assurer pour les trains de jour le même confort que les wagons-lits de nuit, est imaginé le wagon-salon Pullman, une sorte d'appartement de luxe roulant, quoi, où les repas sont servis à la place même du voyageur, lui évitant ainsi de devoir se déplacer au wagon-restaurant. Les petites lampes roses sur les tables marquent d'un style année folle le Pullman. En 1922, toutes les voitures en teck sont remplacées par des voitures métalliques, plus confortables. Ces dernières sont peintes d'une couleur bleu nuit avec des liserés de couleur. Ces couleurs auraient été choisies par le directeur de la compagnie, M. Noblemaire, en souvenir de sa tenue de chasseur alpin. Rendez-vous compte. Très rapidement, l'Orient Express fait également l'unanimité chez les amateurs de bonne chère. Malgré sa surface réduite, à peine 2 mètres sur 2, la cuisine du train est un lieu d'où sortent des mets dignes des meilleurs restaurants et qui varient selon les pays traversés. La légende raconte que certaines personnes montaient dans le train 2 ou 3 heures dans le seul but de se régaler au restaurant. À ce propos, nous connaissons les menus servis à bord le jour de la signature de l'armistice, le 11 novembre 1918. Un jour mémorable pour l'histoire de l'Orient Express, d'ailleurs, nous y reviendrons. Menu. Déjeuner, omelette paysanne, fricando florentine, chou-fleur à la polonaise, viande froide, à la gelée, salade, dessert. Au dîner, consommé au diablotin, langouste en belle vue, contrefilet à la Jussieu, endive demi-glace, dessert. On est un petit peu loin des champs de bataille, avouez-le. Bien entendu, l'histoire de l'Orient Express est jalonnée d'histoires bien réelles et pourtant stupéfiantes. Le voyage n'est en effet pas exempt d'aventures en tout genre. Tenez, en 1891, des bandits, ouais, prennent en otage 5 voyageurs et dérobent 120 000 livres sterling. L'année suivante, le choléra s'invite dans les wagons et l'Orient Express est mis en quarantaine. Le 30 juin 1919, l'Orient Express, arrivant de Bucarest, est bloqué plusieurs jours à la frontière yougoslave, faute de combustible. Excédés par l'attente, les voyageurs finissent par se cotiser pour acheter un wagon de bois à des paysans du coin et repartir. Durant l'hiver 1929, l'Orient Express se trouve bloqué par la neige pendant 5 jours, à 130 km d'Istanbul. La température dans les wagons atteint les moins 10 degrés, poussant un maharaja à acheter à prix d'or les manteaux des autres voyageurs pour couvrir ses 7 femmes. Affamés, certains passagers s'aventurent dehors pour échanger des œufs contre leurs bijoux au village le plus proche et finissent par chasser le loup, voire en manger. Et cette aventure inspira Agatha Christie la toile de fond de son roman « Le crime de l'Orient Express » dont nous reparlerons bien entendu. Quelques années plus tard survient l'une des histoires les plus dramatiques et rocambolesques louées à l'Orient Express, lorsque des terroristes font sauter au passage du train un viaduc en Hongrie un soir de septembre 1931. La locomotive et plusieurs wagons tombent dans le vide, faisant une 20aine de morts et une 100aine de blessés. L'attaque reste dans les annales car la chanteuse Joséphine Baker se trouvait à bord du véhicule visé. Par le plus grand des hasards, elle fait partie des survivants. Son wagon-lit est le seul qui n'a pas déraillé. Indemne, elle se met alors à chanter pour réconforter les survivants. Rendez-vous compte. Mais l'Orient Express va également jouer un rôle historique de premier plan. Dès le début de la Première Guerre mondiale, le service des wagons-lits, à travers l'Europe en guerre, est évidemment suspendu. L'Allemagne s'approprie en 1916 un lot de voitures de la compagnie des wagons-lits pour lancer sa propre version de l'Orient Express, le Balkanzug. Quant à la compagnie des wagons-lits, elle met à sa disposition des généraux alliés plusieurs voitures de luxe pour leurs déplacements. Le wagon-restaurant 2119D de l'Orient Express, construit en 1913, rentre lui aussi dans l'histoire le 11 novembre 1918 à 5h du matin. Transformé en bureau-salon pour le général Foch, commandant en chef des armées alliées, il a été choisi pour la signature de l'armistice. L'état-major souhaite un lieu isolé des regards, capable d'accueillir deux trains, un pour les alliés et l'autre pour les Allemands. Le train du maréchal Foch est positionné dans une clairière en forêt de Compiègne, proche de la gare de Rotonde, ce qui permet de ravitailler en eau les machines en permanence maintenues en chauffe. Assez éloigné aussi pour permettre des discussions, loin des journalistes tenus à l'écart. L'armistice met provisoirement fin au combat de la Première Guerre mondiale, reconnaissant de fait la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne.
Le clairon a sonné. L'ordre sur toute la ligne a été exécuté par tous les clairons, par toutes les musiques qui existaient.
Après 4 ans d'espérance, tous les peuples alliés, avec les poils de France, ont des moissons de laurier, et qui président la fête.
La compagnie des wagons-lits fait don de ce restaurant à l'État français en 1921. Aujourd'hui, vous pouvez admirer un wagon de la même série, le wagon 2039D, aménagé à l'identique dans la clairière de Rotonde. Et depuis les fenêtres latérales, des étiquettes indiquent la place des généraux le 11 novembre 1918. Et l'arrière du wagon est décoré des drapeaux des pays alliés ayant participé à la Première Guerre mondiale. Mais le destin exceptionnel de ce wagon ne s'arrête pas là. Un peu plus de 20 ans plus tard, l'armistice du 22 juin 1940, demandé cette fois par la France à l'Allemagne, consacrant la défaite de la France au début de la Deuxième Guerre mondiale, cet armistice est signé par la volonté d'Hitler dans ce même wagon de 2419D, placé exactement au même endroit qu'en 1918. Revanche de l'Allemagne humiliée. Emmené à Berlin, le wagon sera détruit par accident sur une voie de garage lors de l'avancée des armées alliées. Incroyable destin quand même, non ? Pour un wagon-restaurant, rendez-vous compte. Sur ce titre de Jean-Michel Jarre, Orient Express, nous allons voir que le mythe de l'Orient Express se construit également par les personnalités qui ont voyagé à bord. L'écrivain russe, Léon Tolstoï, l'actrice américaine Marlène Dietrich qui retrouve son amant Jean Gabin, le créateur des ballets russes Serge Diaghilev, Albert Einstein, Joséphine Baker, Coco Chanel, Jean Cocteau, Freud, l'inventeur autrichien de la psychanalyse ou encore l'écrivain américain Ernest Hemingway. Et un homme d'affaires arménien échappe au génocide de son peuple perpétré par les Turcs en 1915 en prenant clandestinement le train à Istanbul. Des aventuriers comme Laurence d'Arabie, des espions comme la célèbre Matahari qui sera fusillée pour espionnage pendant la Première Guerre mondiale, des militaires anglais en partance pour l'Inde, un sultan, Abdul Hamid II, s'installe à bord avec ses 8 femmes et transforme l'Orient Express en harem roulant. Quant au roi Ferdinand Ier de Bulgarie, il exigeait, tenez-vous bien, de conduire le train lui-même à toute vitesse à travers son royaume sans que personne n'ose s'y opposer. À Paris, une célèbre maison accueillant des messieurs, bel euphémisme, propose à ses clients fortunés une chambre décorée comme un compartiment de l'Orient Express, avec en option des bruits de gare et l'intervention d'un contrôleur pouvant prendre part aux différents transports. Rendez-vous compte. Tout cela s'inspirant d'un roman léger de Guillaume Apollinaire, dont un passage se déroule à bord du Constantinople. Le mythe de l'Orient Express se construit aussi à travers la littérature et le cinéma. Dès 1883, l'écrivain Edmond Abou, qui a participé au voyage inaugural du train, publie De Pontoise à Istanbul. En 1897, dans le célébrissime Dracula de Bram Stoker, le professeur Van Helsing prend le train de luxe pour se rendre à la rencontre du non moins célèbre vampire qui l'attendait déjà. En 1925, Maurice de Broca publie « La Madone des Sleeping » qui raconte les péripéties ferroviaires, amoureuses et politiques, d'une jeune veuve désargentée. En 1993, Frédéric Dard publie « La Matrone des Sleeping » de la série San Antonio. Quelques extraits. « T'as déjà pris l'Orient Express, toi ?»« Jamais ? Alors, t'as tout raté. Tu sais qu'il s'en passe des choses dans ce train de rêve, non ? Des choses que t'en reviendras pas. Je connais des tas de mecs qui n'en sont pas revenus. J'ai essayé de compter les Maccabées jalonnant sa route, et comme j'avais pas de calculette, j'y ai renoncé. Alors, lorsque t'auras terminé la lecture de cette épopée ferroviaire, tu pourras t'y coller si ça t'amuse. Et si on te filait 10 balles par tête de pipe, t'aurais de quoi prendre l'Orient Express à ton tour. Auquel cas, tu devrais faire poinçonner ton bifton plutôt que ta tronche, Frédéric Tard dans le texte. Paul Morand, Valérie Larbeau, Joseph Kessel et Ernest Hemingway mettent en scène leur expérience ou leurs intrigues dans l'Orient Express. En 1957, l'agent secret britannique James Bond fait un voyage particulièrement mouvementé à bord de l'Orient Express dans « Bon baiser de Russie » de Ian Fleming. Mais celle qui est définitivement associée au roi des trains est la reine du crime, normal, Agatha Christie. La romancière britannique a rencontré son deuxième mari dans l'Orient Express et ses voyages à bord lui inspirent 3 romans dont le célèbre Crime de l'Orient Express publié en 1934. En fond sonore, nous entendons le générique de la série britannique Hercule Poirot qui est interprété par David Suchet à la célèbre moustache. Ce roman policier, l'un des plus connus d'Agatha Christie, s'inspire de l'histoire survenue en 1929. Vous vous rappelez, l'Orient Express coincé dans la neige, les voyageurs qui chassent des loups et échangent des bijoux contre des œufs, vous vous rappelez. Par contre, le crime sort tout droit de l'imagination de l'auteur. Hercule Poirot se trouve à bord de l'Orient Express, lui aussi bloqué par la neige. On découvre dans l'une des voitures le corps d'un Américain sauvagement assassiné à coups de couteau. Le meurtrier se cache forcément parmi les voyageurs, mais qui de la princesse russe, de l'Américain fantasque, de ce couple de Hongrois distingués, de ce colonel de retour des Indes, ou même du propre secrétaire de la victime, qui donc a bien pu commettre pareil crime? L'enquête commence, elle sera l'une des plus difficiles, des plus délicates pour notre célèbre détective, et le roman se vend à des millions d'exemplaires. Ses adaptations cinématographiques sont de francs succès. La bande dessinée et le jeu vidéo s'emparent également du mythique train et du crime de l'Orient Express. Une collection d'albums érotiques, Orient Express, rendez-vous compte, un jeu de simulation ferroviaire, Microsoft Train Simulator en 2001, et bien d'autres. Jean-Michel Jarre compose le titre Orient Express en 1982. La Seconde Guerre mondiale en 1939 marque un nouvel arrêt pour l'Orient Express, comme entre 1914 et 1918. La société allemande, Mitropa, lance sa version du train de luxe à l'attention des dignitaires nazis, en s'appropriant les wagons de la Compagnie internationale des wagons-lits. Mais l'entreprise n'est pas un succès, à cause des résistants qui sabotent régulièrement les lignes de chemin de fer. À la fin de la guerre, de nombreuses gares, voies et ponts sont inutilisables à cause des bombardements et beaucoup de voitures ont été détruites. Au total, 189 voitures ont été perdues et plus de 300 ne sont plus en état de rouler. De plus, avec la guerre froide, les « démocraties populaires » entre guillemets d'Europe de l'Est acceptent mal ce cordon occidental traversant les frontières du rideau de fer. Les contrôles aux frontières s'intensifient, causant un fort ralentissement de la vitesse moyenne du train. Ce dernier est, comme lors de sa grande époque, pris à la fois par les diplomates, les espions et les trafiquants en tout genre. Des réfugiés politiques s'y cachent également pour échapper au pays sous l'influence de la Russie. Interminable arrêt douanier dans les pays communistes traversés, faiblesse de sa vitesse commerciale, à peine 55 km/h vers la fin, en raison du mauvais état des réseaux ferrés, concurrence des transports aériens, tout cela entraîne le lent déclin de l'Orient Express. Le dernier aller-retour par Istanbul se fait le 20 mai 1977, 94 ans après son inauguration. Aujourd'hui, il reste un train propriété de la SNCF, composé de 7 voitures, dont certaines classées monuments historiques. Entièrement restaurées, ces ambassadrices itinérantes de l'art déco français circulent à titre exceptionnel pour des événements et des voyages privés. Une partie de ces voitures d'époque ont été parquées d'ailleurs en 2014 le long de l'Institut du Monde Arabe dans le cadre de l'exposition « Il était une fois, l'Orient Express ». On peut retrouver de sublimes photos de cette exposition dans l'édition spéciale du magazine Beaux-Arts, publié en collaboration avec la SNCF et l'Institut du Monde Arabe. Un magazine intitulé tout simplement « Il était une fois l'Orient Express », comme pour souligner sans doute la dimension de conte merveilleux de cette aventure ferroviaire. Aujourd'hui, l'Orient Express est devenu le Venise-Simplon Orient Express. Même concept, décoration luxueuse, fidèle à l'Orient Express d'origine, itinéraire à travers l'Europe, Paris, Budapest, Prague, Vienne. Il faut tout de même compter au moins 1600 euros par personne pour faire ce trajet. Ouais, la nostalgie des grands trains de luxe a un coût.
Bienvenue à bord du Venise-Saint-Laurent Express. Le Venise-Saint-Laurent Express, ça n'est pas un train comme les autres, parce que c'est un train qui a une mémoire, c'est un train intemporel. Lorsque vous prenez dans ce train, c'est un train qui a une âme. Le nom déjà parle, c'est un nom qui date des années 30, qui a tout un caractère historique lié, je dirais, à Agatha Christie.
Veuillez vous donner la peine d'entrer, monsieur. Un valet de pied, ma foi très courtois, a formulé cette invitation à notre intention. Tout en le suivant, nous avons traversé une suite magnifique de salons somptueux. Voilà, terminus, tout le monde descend. J'espère que vous avez aimé voyager et rêver avec moi à bord du mythique Orient Express et vivre quelques-unes de ces aventures, côtoyer quelques personnalités hors du commun. C'était Didier Delatte sur EDFM. Vous retrouverez la playlist complète des illustrations sonores et musicales sur le podcast de l'émission en ligne sur le site d'EDFM. À la semaine prochaine, même heure, même adresse, soyez pas en retard, le train partira aussi. Culture, jeunesse, solidarité, citoyenneté, environnement, on fait le plein dans notre département et dans notre rendez-vous compte, évidemment.